C'est une collection impressionnante. Vous avez ici quelques éditions extrêmement rares.
Sa bibliothèque était tout son univers.
Je comprends ça.
Vous êtes un privilégié. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. C'est ma collection privée. Certains bibliophiles collectionnent les romans du 19e, d'autres les livres d'heures. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. Le diable.
Je peux jeter un coup d'œil?
Oui. C'est pour ça que je vous ai amené ici. Magnifique, n'est-ce pas? Cette tendre patine, ces superbes dorures. Sans parler des siècles de sagesse qu'ils contiennent, je connais des gens qui tueraient pour une collection comme celle-là. Vous ne verrez nulle part au monde autant d'ouvrages sur le sujet que j'en ai réunis ici. Ce sont les plus rares, les plus choisis des éditions qui existent, et il m'aura fallu une vie entière pour les rassembler. Seul le suprême chef-d'œuvre manquait. Venez.
The Deviants Album.
Au commencement, il y eut une tempête de carbone et de roches en fusion qui a engendré le granit et la terre. Puis la terre trembla, se fissura et s'éleva pour se dresser jusqu'au ciel. Puis les forêts naquirent, dépérirent et repoussèrent 100 fois. Et les peuples naquirent, dépérirent et revécurent 100 fois. Il y eut des tempêtes et des saisons, des clôtures et du sang, de l'émerveillement et de la vengeance et des regrets. Et la terre et le ciel n'en avaient rien à carrer.
Merci. Rhett, passe-moi le pain, s'il te plaît.
Je voudrais prier.
Hmm?
Je voudrais prier pour le repas. Seigneur, nous prions ce soir pour Trevor, pour sa famille et pour nos garçons aussi, pour notre famille. Nous te demandons de nous pardonner. Je suppose. Nous te demandons de nous montrer la voie, parce qu'on a des problèmes. On est désespérés. Tu as créé ce monde de fous. Alors peut-être que tu pourrais nous mettre sur la piste, nous dire ce que tu manigances, parce que je suis carrément largué. Peut-être que tu n'as rien à voir avec tout ça, ou que t'es même pas là. Qui sait? Il y a une immense distance qui nous sépare, toi et nous. Il y a un trou béant. Un vide, un énorme vide, et je te demande de combler ce vide. Je te demande de combler ce vide. Je te demande de te manifester et d'expliquer ce que tu fais. Parce que ce monde que tu as créé tient pas debout, et je t'en veux à mort. Même que je sais plus vraiment si je crois en toi. Mais putain, je t'en veux! Il y a un énorme vide! Fin de la discussion! Et passez-moi les patates, maintenant!
Amen.
Complètement fêlé. Les peurs, les angoisses et les bouleversements se cristallisent dans un personnage. Le fou.
Le fou, le fou.
Mais je n'ai aucune envie de voir les gens complètement fous.
Oh, mais il n'y a rien à faire. Parce que tout le monde est fou ici. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête.
Les artistes sont hantés par l'imaginaire de la déraison. Et leurs images traduisent des visions hallucinées.
La déviance,
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 déviant, déviance,
déviance, la déviance,
déviance, la
déviance,
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 les nouveaux déviants,
la déviance,
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 les nouveaux déviants,
les nouveaux
déviants,
les nouveaux déviants,
des éditions au Diable Vauvert.
Bonjour, bonsoir, salutations à toutes et tous. C'est Bouquin Bouquine, l'émission de livres et de ceux qui les dévorent. c'est Flo derrière le micro, et je vous souhaite une excellente nouvelle année. Le meilleur pour vous, et bien sûr, d'excellentes lectures. Bouquin Bouquine, c'est une émission à retrouver chaque dernier mardi du mois, 22h, sur Graffiti. Graffiti qui célèbre et vous invite à découvrir un tout nouveau site web sur graffitiradio.fr. Youpi ! Toute l'équipe de Graffiti et moi-même vous invitons à soutenir par des dons cette belle radio associative. En effet, des coupes budgétaires de la région sur la culture menacent et brouillent nos habituelles bonnes ondes. À votre bon cœur, monsieur dame. Bouquin Bouquine, c'est aussi à suivre et à retrouver partout sur Internet avec d'abord les podcasts disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Castopod, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Mais aussi sur les réseaux avec la page Facebook et pour me follow, c'est désormais et uniquement sur Blue Sky. Le plus simple, vous tapotez sur votre clavier Bouquin Bouquine dans votre barre de recherche et vous trouverez. Bonne écoute. Vous l'aurez compris, le sujet de ce soir, c'est la déviance. Je vais vous lire deux nouvelles extraites du livre « Les nouveaux déviants ». Ça ne pouvait venir d'ailleurs que de chez les éditions « Au diable Vauvert ». Ah, le diable ! Amicales salutations à ton équipe. Aux manettes de ce projet éditorial, compilation de textes, tous plus déviants les uns que les autres, on va retrouver un duo de choc. Le très adoré ici, l'auteur Dark Soleil, préféré de cette émission, le camarade Christophe Siebert et son acolyte Morgane Cossarieux. Tous deux réunis pour travailler à la composition de ce recueil. Trash, décapant, inquiétant, à la marge, obscur, mystérieux, c'est tout ça et bien plus. Les nouveaux déviants au diable Vauvert, tout de suite la quatrième de couverture. En 17 nouvelles et 17 voix puissantes pour explorer autant de façons de dire l'horreur aujourd'hui, cette anthologie sonne comme le manifeste d'une scène littéraire transcendant les genres. Ni polar, ni anticipation, ni fantastique, ni érotisme, ni avant-garde. Les nouveaux déviants sont tout ça à la fois et vont vous secouer. 17 textes, 17 nouvelles réunies donc dans ce recueil. Ainsi, nous allons trouver une longue liste d'auteurs et d'autrices. Les voici. Luna Baruta, Charlotte Bourlard, Sarah Bushman, Christophe Carpentier, Morgane Cossarieux, Antoine Chénas, Violaine de Charnage, Mathilde Marie de Malfilâtre, Alexandre Désy, Raphaël Emery, Sébastien Guéraud, Alex Gestière, Simon Johannin, Nicolas Martin, Justine Niogré, Christophe Siebert et Vincent Tassi. Une quasi-parfaite parité d'auteurs et d'autrices dans ce recueil. Parité que j'ai décidé de respecter en choisissant les deux nouvelles que je vais vous lire. La première, en deux parties, de Sœur Siebert, avec sa mégalopole fictive, inventée et pourtant si proche de nos réalités, avec le récit « Deux miracles à Mertvekhgorod ». Mertvekhgorod, où j'ai bien l'intention de me rendre une nouvelle fois dès le mois de février, avec la parution du prochain roman « Une vie de saint ». Puis, ce sera au tour de la nouvelle « Rasta Boy » de Morgane Cossarieux, autrice des très remarquées « Vertèbres » puis « Visqueuse ». Attention, ça commence. Bonne écoute. Page 119. Deux miracles à Mertvekhgorod. Christophe Siebert. Le camion. Extrait des archives d'Ernest Thomas.
Au sol qui vibrait, au vacarme des trains. avait même fini par s'acclimater au ciel, qui disparaissait petit à petit, au brouillard, à la puanteur, à la crasse. Enfin, je vais pas vous faire un dessin. La première neige noire, c'était aussi en ce temps-là. Bref, on s'adaptait, on s'adapte toujours. Mais les cancers qui nous ont dégringolés dessus à tour de bras à cause de la pollution, personne ne les a vus arriver. Ça nous a fichu un coup. Vraiment, les gens tombaient comme des mouches. En bordure de la zona, pas une famille n'était épargnée. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas vous rendre compte du choc. Une nouvelle peste. Maintenant, le cancer est une maladie mondiale. Tout le monde crève de ça, à Mertvekgorod ou ailleurs. Mais il y a 40 ans, c'était nouveau. Ben passons. Je voulais juste vous brosser un peu le décor. J'avais 14 ou 15 ans. Né l'année de la perestroïka, j'étais un adolescent timide, renfermé. Je ne sortais pas de chez moi sauf pour aller à l'école. Le reste du temps, la fenêtre de ma chambre constituait mon seul contact avec le monde extérieur. Mes parents se tuaient à la tâche. Mon père bossait à l'usine de traitement de déchets, les Senko, et ma mère chez les riches du Rajan 13, en tant que boniche. Autant dire que je ne les voyais pas souvent. Et puisque j'avais trop la trouille pour traîner dans les rues avec les voyous, je passais mon temps libre collé à la vitre. Mieux que la télévision, et il se produisait toujours quelque chose d'intéressant. À l'époque, intéressant, ça voulait dire bizarre, violent, sordide.
Oui, je vois.
Mais un matin, il y a eu le camion, garé sur le parking de l'ancienne clinique. Elle avait cessé toute activité, même pas un an après avoir ouvert. Faut dire que choisir ce coin pour se spécialiser dans l'allongement du pénis, la nouvelle mode pour les touristes et les oligarques, on peut pas dire que les clients se bousculaient. Le bâtiment servait d'abri aux clodos, aux tox, aux dealers.
C'était quel genre de camion?
Un Kamaz de l'armée. Un truc assez imposant. 6 mètres de long, kaki, incongru dans le quartier. Personne ne savait à qui il appartenait. Si des gens ont tenté de me piquer, de le désosser à cette époque-là, je ne l'ai pas su. En tout cas, ils n'ont pas réussi. Le Kamaz est resté à sa place, intact, comme si son propriétaire pouvait revenir d'un moment à l'autre le récupérer. Une bande de zonards a fini par y élire domicile. Vu les dimensions de l'engin, il pouvait y dormir à 7 ou 8 sans forcer. C'est vite devenu la foire. Feu de poubelle, musique à fond, au point que ça a foutu en rogne les dealers ont y trouvé que ce tapage nuisaient à leur business. Ils ont organisé 2 ou 3 expéditions punitives, rien de bien méchant, jusqu'au jour où ils ont décidé que ça suffisait. Quand ils ont mis le feu au camion, j'en ai pas perdu une miette. Peut-être bien que j'ai été premier à comprendre que quelque chose clochait. Ou alors, les zonards le savaient déjà, et c'est pour ça qu'ils s'accrochaient à leur foutu camion, en dépit des raclés que les dealers leur collaient. Peut-être se sont-ils rendus compte qu'ils pouvaient picoler 15 fois plus sans gerber, sans gueule de bois, sans rien. Ou alors qu'ils n'avaient plus autant envie de boire que ça. Ou même que l'alcool ne les enivrait plus. Allez savoir.
Que voulez-vous dire?
Mais ça s'est passé un dimanche matin. Je n'avais pas école. Mes parents étaient partis bosser. Dimanche, ça n'existait pas pour les gens d'ici. Il devait être 6h, 6h30. Je venais de me lever. Pour moi, la journée démarrait. Mais pour les cinglés dehors, on était plutôt en fin de soirée. Fidèle à ma routine, j'ai tiré la chaise jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert un peu les volets, juste pour y voir. On les gardait fermés tout le temps à cause de la pollution. Et me suis mis à genoux sur l'assise, les bras croisés sur le dossier. On aurait pu croire que je priais. J'ai tout de suite compris que le spectacle promettait d'être encore plus réussi que d'habitude. Mais ça n'a pas manqué. Tandis que les dealers, aidés par quelques tox encore à peu près debout, tenaient en respect les zonards, d'autres arrosaient le Kamaz d'essence. Quelqu'un a allumé un briquet et l'a lancé. Le truc s'est embrasé d'un coup. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y a eu des cris, du bordel, un début de bagarre. Mais d'un coup, des hurlements beaucoup plus forts ont retenti. 4 silhouettes ont jailli de la bâche, dévorées par les flammes, et se sont roulées par terre pour s'éteindre. Ça a sonné la fin de la récréation. Les zonards ont récupéré leurs potes et ont foutu le camp. Les dealers ont repris leur activité près du camion qui continuait à brûler, comme si de rien n'était. gens se mêlent des affaires des autres.
Mais je ne comprends pas ce que tu sais.
Ben, je vais vous le dire. Les honnards ne semblaient pas si amochés que ça, au bout du compte. Pas amochés du tout, à vrai dire. Où étaient passés leurs escarres, leurs crevasses, leurs croûtes, les tumeurs bizarres qui déformaient leur gueule ou leurs mains. Voilà ce que je me demandais depuis quelques jours. Étais-je le seul à me poser ces questions? Sans doute. Je n'imaginais pas mes voisins remarquer ce genre de détails. Et autre chose clochait, ce qui avait brûlé vif sous la bâche, quand on les a vus traîner de nouveau dans le secteur, n'avait pas la moindre bloc, pas la plus petite rougeur. Mais c'est avec les junkies que les dealers ont pillé.
Pillé quoi?
Que le camion avait des pouvoirs, qu'il guérissait les gens. Les choses se sont tassées. Le camion ne paraissait pas si abîmé que ça. On aurait pu croire qu'il n'en resterait qu'un tas de ferraille noircie, le carcasse tordu, mais non. Sans aller jusqu'à prétendre qu'il était intact, il n'avait pas trop souffert. Évidemment, ni les flics, ni la voirie, ni qui que ce soit n'ont songé à débarrasser le trottoir de cet épave. Les toxes se sont pris d'affection pour lui. Ils aimaient se piquer à l'intérieur, enfin leurs petites affaires, vous voyez. Et puis, jour après jour, le business a périclité. De moins en moins de clients. Comment les dealers ont saisi, je l'ignore. De même que j'ignore comment moi, je saisis. Certaines idées flottent dans l'air et sautent d'un cerveau à l'autre, j'imagine. En tout cas, il semblait bien que ceux qui se camaient bien au chaud dans le Kamaz ne revenaient pas.
C'est-à-dire?
Après quelques passages dans le camion, ils n'achetaient plus rien. Les dealers ont cru d'abord que les types se fournissaient ailleurs. Ils en ont chopé un et lui ont posé quelques questions. Et puis ils se sont souvenus des honnards et ont additionné deux et deux. Je vous raconte ça de A à Z, mais à l'époque, je pigeais pas tout. Évidemment, ça m'arrivait par bribes. J'ai reconstitué l'histoire petit à petit, en mélangeant ce que j'observais, ce que je déduisais, ce que racontaient les gens.
Vous dites que les individus qui séjournaient plus ou moins longtemps dans le camion guérissaient?
Tout juste. Et à votre avis, qu'ont fait les dealers quand ils ont capté ça?
Je ne sais pas.
Ils ont foutu le feu au camion, ce qui n'était pas la preuve d'une grande intelligence. Il fallait être un peu con pour imaginer qu'un truc doué d'un tel pouvoir ne l'appliquait pas à lui-même. Bien sûr, le camion a été à peine abîmé. Au bout d'une semaine, les dealers avaient perdu la moitié de leur clientèle, peut-être davantage. Ils sont partis et les honnards ont repris leur place, rejoints par les squatteurs de l'ancienne clinique.
Les autres habitants du quartier, de quelle manière réagissaient-ils à tout ça?
Les gens ont leur vie, vous savez, des préoccupations plus terre à terre. Le loyer, les camins, toutes les merdes qui composent l'existence, avec en plus la misère et tout ce que vous voulez, la rumeur du camion magique leur entrait dans une oreille et ressortait par l'autre. Au mieux, ça devenait un sujet de discussion moins banal que les sempiternels ragots. En tout cas, personne ne croyait assez à cette histoire pour prendre le risque de se ridiculiser en tentant l'expérience.
Jusqu'au jour où...
Exactement. Jusqu'au jour où moi j'y suis allé. De l'école, pour une raison ou pour une autre, je me suis fait tabasser par des gamins plus âgés que moi. Pas pour me piquer mon fric ou mes affaires, j'en avais pas. Peut-être qu'ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. Ou alors, ma tête leur revenait pas. Pas besoin de chercher un prétexte pour dérouiller quelqu'un. L'envie d'en découdre peut suffire. Ils ne m'avaient pas raté. Un cassage de gueule en règle. Je pissais le sang. Et peut-être que ces fils de pute m'avaient cassé le poignet. Heureusement, l'école ne se situait pas trop loin de la maison. Mais au lieu de rentrer chez moi, j'ai bifurqué vers le camion. Les clodos m'ont observé approcher. J'oublierai jamais leur regard. Ils savaient. Et savaient que je savais. J'ai grimpé sous la bâche en m'aidant du marchepied. La suite s'est déroulée comme dans un espèce de rêve. Je ne dormais pas, mais ça y ressemblait. Je ne me rappelle aucun détail. Il me reste juste des impressions d'obscurité. De chaleur humide, rassurante. Je suis resté dans le camion une demi-heure, une heure, pas plus. Quand je suis sorti, j'étais rétabli. Plus la moindre blessure. J'ai raconté ça à mes parents. Évidemment, ils ne m'ont pas cru. Sauf que les honnards n'étaient pas les seuls témoins. Tout le quartier m'avait vu entrer dans le camion en sang et ressortir sans une égratignure. À partir de là, les choses se sont emballées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vivait dans la misère. Pas de médecin. Personne n'avait les moyens de payer une consultation matin, on les a retrouvés dans une poubelle. Et puis les choses ont dérapé pour de bon. C'est devenu le chaos. Les gens se battaient, la foule grossissait chaque jour. Ça tournait à l'émeute. La plupart repartaient de là plus amochés qu'ils n'y étaient venus.
Personne n'a jamais essayé de voler un camion. On va simplement partir avec et le dissimuler quelque part pour regarder. Nous le voyons.
Le boss des dealers a tenté l'aventure. Il vivait en dehors du quartier. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Mais d'après la rumeur, une nuit, il a tenté de le démarrer. Sans les clés, évidemment. Il est tombé raide mort. Vous vous doutez que ni les flics ni aucun médecin n'ont examiné le corps. Le type aurait fait un arrêt cardiaque foudroyant à la suite d'un choc émotionnel extrême. Autrement dit, il serait littéralement mort de terreur. Plus tard, un cinglé de la zone a tenté le coup. Une espèce de chef de camp de bidonville. On le connaissait. Il traînait dans le coin à chercher la merde pour un oui ou pour un non. Je ne me souviens pas si l'histoire de la première tentative avait déjà circulé ou pas, mais ça ne l'aurait pas dissuadé. Ni ça ni rien d'autre, d'ailleurs. Il brandissait un flingue, déterminé à loger une balle dans la tête du premier qui se serait interposé entre lui et l'objet de sa convoitise. Mais une fois à l'intérieur, c'est vers sa tête qu'il a dirigé son arme. Après ça, plus personne n'a voulu piquer le camion. Et les choses ont tourné, comme je vous ai dit, les bagarres non-stop, etc. Ceux qui en avaient vraiment besoin n'osaient plus s'approcher de ce foutu Kamaz, à moins de 100 mètres. Et puis un soir, coup de chance, je me trouvais encore à mon poste, le front collé à la vitre. Et tout le monde s'est figé et a regardé approcher un homme vêtu d'un uniforme de l'armée. Il avançait paisiblement en direction du camion, accompagné d'un chien. Ni l'un ni l'autre ne semblait menaçant. L'homme ne paraissait même pas armé. Pourtant, tout le monde s'est écarté. La foule s'est fendue sur son passage. On aurait dit des somnambules. Le soldat a ouvert la portière et le molos a sauté dans la cabine, où son maître est monté à son tour. Le camion a démarré et a quitté le parking. Il a progressé en direction du nord, a tourné à droite dans un prospect qui rejoignait le périphérique intérieur et a disparu de notre champ de vision. C'était fini.
Il n'est jamais revenu.
Jamais? Vous savez ce que je crois?
Dites-moi.
Il s'est garé ailleurs en ville, dans un autre Rajan, et ailleurs encore, et ainsi de suite. Peut-être même dans d'autres pays, et qui sait? Je suis persuadé que, tandis que nous parlons, des gens se battent pour y accéder. Je pense que ce camion existe de toute éternité. Peut-être qu'avant, il s'agissait d'un camion d'une autre marque. Peut-être qu'avant l'invention des camions, c'était une calèche, ou une chaise à porteur, ou n'importe quoi d'autre. Peut-être même qu'en fait, c'est juste une caisse, une cellule, mais que ça apparaît sous une forme quelconque, en fonction des lieux et des époques. J'ai une question pour vous.
Allez-y.
À votre avis, pourquoi fait-il ça? Le chauffeur du camion ou son propriétaire, enfin, peu importe, vous m'avez compris. Pourquoi fait-il ça?
Par altruisme? Pour faire du bien aux autres?
C'est ce que j'ai d'abord supposé, mais plus maintenant. J'ai deux hypothèses. La première, c'est que son but n'est pas de nous guérir, mais de nous tester. Le camion se gare, le chauffeur reste dans les parages, incognito, observe ce qui se passe, en tire ses conclusions. Le juge indigne de sa bénédiction. Pour lui, c'est des perles jetées au pourceau. Alors il s'en va. Il donne, il reprend. Le jour où il rencontrera autre chose que des humains dominés par l'avidité, la violence et l'égoïsme, qui sait? Qui sait ce qu'il pourra nous offrir? Qui sait jusqu'où ira sa générosité? Mais je crois que nous échouerons toujours.
Et votre seconde hypothèse?
Cette entité nous fait du mal. Du mal. L'épreuve sert à révéler notre perversité. Dans ce cas, nous la réussissons chaque fois. Et nous la réussirons toujours.
L'enregistrement s'interrompt ici.
Le guérisseur. J'ai l'habitude de lire la rubrique nécrologique du journal. Ma mère l'a toujours fait, avant elle, ma grand-mère. Logique que je m'y sois mise à mon tour. C'est comme ça que je suis retombée sur Vitali Vovanov Latchine, décédé à 48 ans, dont les funérailles auraient lieu le lendemain dans le carré des indigents du cimetière Nord. Vitali Vovanov Latchine, depuis combien d'années n'avais-je pas pensé à lui ? Une rapide recherche sur Yandex m'a permis de connaître les circonstances de sa mort. Un banal arrêt cardiaque, probablement dû à une consommation excessive d'alcool et de cocaïne. Ce n'était pas ce détail que les rares articles consacrés à l'événement retenaient. Ils préféraient glosser sur l'état de son appartement envahi du sol au plafond par des centaines de bocaux en verre, de toute taille, soigneusement fermés, remplis de merde. Des photos stupéfiantes en montraient des armées entières. Dans les placards, entre deux paquets de riz et quelques pommes de terre germées, sur les étagères, la table, les chaises, sous le lit, dans la baignoire, partout. Les plus anciens semblant là depuis 20 ans au moins, englués de poussière, jamais touchés depuis. Disparition du curateur du musée de l'Étron, avait titré le site Vaponorim, à grand renfort de Yugi Gaga. Mais ça ne me faisait pas rire. Vitali, je l'avais rencontré 11 ou 12 ans plus tôt, lors d'un speed dating qui se passait à Logan Po Lazumu, une boîte de nuit branchée du Kvartal Ivan Kojedoub, à l'ouest de la ville. Le quartier s'appelait ainsi à cause de la fameuse école privée pour les superbourges, mais en ce temps-là, il s'agissait du coin à la mode de Merzegorod, l'endroit où se passaient les trucs marrants. Mon mec venait de me larguer, et les copines avaient jugé bon de m'inscrire. Le dress code était simple, ange ou démon. J'avais choisi la seconde possibilité, comme la quasi-totalité des personnes présentes ce soir-là sur l'immense dance floor, converti en salon de rendez-vous du meilleur goût. Guéridon couvert de velours rouge, flanqué de fauteuils en faux bronze, au dossier décoré de petits cupidons potelés et joyeux, musique alternant métal et chansons d'amour sirupeuses, subtil light show, exploitant lui aussi à fond l'opposition entre enfer et paradis. Vitali avait joué la carte de l'originalité. Son costume, assez élaboré, comprenait des ailes dans le dos, une auréole maintenue par un fil de fer émergeant de son encolure et une espèce d'épée tarabiscotée supposée donner l'illusion d'être enflammée.
« Je suis Saint-Michel »
s'était-il présenté en toute modestie en s'asseyant à ma table. Il fallait l'imaginer, avec 30 cm de moins et 20 kg de plus que son modèle, une calvitie dévorante, des petits yeux myopes et une haleine de dragon. Il carburait déjà à la coke, comme en témoignaient ses narines rouges et son débit de parole. Évidemment, je ne lui ai pas donné une note très élevée et n'ai pas souhaité le revoir après ce premier échange. Néanmoins, le bougre avait réussi à me refiler sa carte de visite en totale violation des règles du jeu. Elle indiquait son nom, son numéro de téléphone et son métier. Guérisseur métapsychique. L'imposition des mains et le corps astral ont d'ailleurs été ses seuls sujets de conversation, ou plutôt, puisqu'il ne m'a pas laissé passer un mot, le thème de son monologue. Longtemps après, une nouvelle épouvantable m'a jeté dans une telle angoisse que j'ai fouillé toutes mes affaires jusqu'à remettre la main sur sa carte de visite, froissée, couverte de brins de tabac, enterrée au fond d'un sac à main que je n'utilisais plus depuis l'urette. En composant son numéro sur mon smartphone, j'ai prié pour qu'il n'en ait pas changé. Je priais beaucoup en ce temps-là. Je suis tombé sur son répondeur. C'était bien lui. J'ai laissé un message.
Bonjour Vitali Vovanov. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi, mais vous m'avez donné vos coordonnées il y a 3 ans. Aujourd'hui, je vous contacte parce que j'ai un cancer du sein. Les médecins n'arrivent pas à le soigner. Il commence à métastaser. Et je suis désespéré.
Il m'a rappelé quelques heures plus tard et m'a invité à passer à son cabinet le lendemain. Pendant les 30 minutes de mon trajet en métro, j'ai largement eu le temps d'hésiter, regretter et me traiter d'idiote superstitieuse. Mais je n'ai pas rebroussé chemin, et me suis trouvé, finalement, devant un immeuble délabré du prospect 67, à deux pas des bois de l'impératrice. Quand il a ouvert la porte de son cabinet, en réalité son appartement, Vitaly n'était pas déguisé en Saint-Michel, mais portait une sorte de robe de chambre en satin pourpre, mal fermée, laissant voir une partie de sa poitrine grasse et de sa bedaine poilue. C'était pire que la première fois et j'ai failli tourner les talons. Mais il s'est effacé avec un grand sourire qui m'a mise en confiance. Il m'a invité à entrer.
J'ai préparé du thé.
L'odeur qui dominait évoquait plutôt des canalisations bouchées depuis plusieurs années. Je me suis assise dans le fauteuil mité qu'il m'a désigné et il a rempli deux tasses d'un Earl Grey très infusé. Je n'ai rien dit à propos de la puanteur que la bergamote ne parvenait pas à couvrir. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a posé des questions et résumé sa méthode. Elle consistait à absorber la maladie par imposition des mains. J'ai dû tirer une drôle de tête, car il a ajouté
« En venant ici, vous saviez très bien à quel genre de traitement vous alliez vous soumettre. Non, je suis guérisseur. Je ne vous demande pas de croire, simplement d'observer. Nul besoin d'avoir foi en la gravité pour qu'elle existe. Les forces invisibles fonctionnent pareil. La magie, les esprits, l'au-delà, restent vrais, avec ou sans votre approbation. Enlevez votre pull et votre chemisier, je vous prie, ainsi que votre soutien-gorge, si vous en portez un. »
Je me suis exécuté, prête à lui expédier mon pied dans les couilles au moindre geste ou regard déplacé. Mais il s'est comporté avec le même détachement qu'un médecin normal. Il a placé ses deux mains sur mon corps, l'une contre mon sein, l'autre au niveau du poumon, là où le cancer avait commencé à se propager. J'ai eu un frisson. Il avait les paumes froides et humides, d'une douceur graisseuse et désagréable. Un fumet de chair rance, de maladie, de fièvre, un parfum de mouroir a émané de sa personne. Son visage a pris une pâleur de cierge. Des larmes ont coulé sans discontinuer de ses yeux, sans expression. À l'intérieur de moi, j'ai perçu des choses bouger. C'était une sensation inédite, incompréhensible. J'ai ouvert la bouche pour poser une question, mais Vitaly a secoué la tête pour m'empêcher de parler. Une faiblesse m'a envahi, ponctuée d'étourdissement. Au bout de quelques minutes, alors qu'il devenait de plus en plus cadavérique, il a cessé de pleurer et a retiré ses mains. Il serrait les dents, front baigné de transpiration. Il m'a indiqué, par quelques gestes brusques, que je pouvais me rhabiller et s'est précipité dans la pièce voisine. Quand il a ouvert la porte, les relents de merde ont décuplé et m'ont prise à la gorge. Je l'ai suivi, intrigué. L'épuisement me coupait les jambes. La chambre était minuscule, meublée seulement d'un lit. Des icônes couvraient les murs. Au sol s'entassaient des bocaux de toute taille, remplis d'une matière brune ou noire, plus ou moins solide. L'infection venait de là. J'ai failli me trouver mal quand j'ai vu ce que faisait Vitaly. Bouche ouverte au-dessus d'un bocal vide qu'il tenait à deux mains, il dégorgeait un flot de merde. Il chiquait par le gosier une diarrhée grumeleuse, en spasme qui lui tordait le corps, glapissant des éructations d'agonie, dégoulinant de sueur, bavant, pleurant. La puanteur me tordait les tripes et me brûlait la gorge et les yeux. Il a cessé de régurgiter et a récupéré un bouchon de liège avec lequel il a fermé le bocal, qu'il a ensuite scellé à l'aide de rubans adhésifs. Alors seulement, il l'a posé au sol parmi les autres et s'est rendu à la salle de bain. J'ai entendu l'eau couler. Je l'ai entendu subir d'autres nausées, sangloter, cracher. Au bout de plusieurs minutes, il m'a rejointe, l'air toujours malade. Je scrutais intensément le bocal qu'il venait de remplir, cherchant une explication à ce délire. Je m'habituais à l'odeur.
« Ah ! Vous étiez là !»
D'une voix de moribond, il m'a proposé de retourner au salon et nous a servi deux nouvelles tasses de thé. Il a posé le bocal sur la table basse.
C'est votre cancer.
J'ai haussé les sourcils.
Oui, votre cancer. Vous êtes guéri. Les médecins parleront de rémission spontanée. Diront que votre corps s'est défendu. Certains prononceront le mot « miracle » sans le penser, naturellement. Pourtant, ce sera la stricte vérité.
Un miracle ?
Exactement.
Je ne parvenais pas à détacher mes yeux du récipient et de ce qu'il contenait. Vitali a poursuivi ses explications. Ce pouvoir lui venait de son père. Son père le tenait du sien, et ainsi de suite. Ça remontait à loin, au premier sein, peut-être même avant ça. L'épuisement ne passait pas. Je me sentais incapable de poursuivre cette conversation. Il fallait que je mange, que je dorme.
Je vous l'ai dit, je ne vous demande pas de croire. Consultez les médecins et revenez.
C'est ce que j'ai fait. Quelques semaines plus tard, après tout un tas d'examens, de contrôles, ils m'ont déclaré inexplicablement guéri. Mon corps était sain, comme si jamais la moindre cellule cancéreuse ne s'y était développée. Ils m'ont annoncé ça avec froideur, presque sur un ton de reproche. J'échappais à leur pouvoir. Je suis retourné voir Vitali. Cette fois, nous avons bu de l'avocat pour fêter ça. Je l'ai regardé d'un autre œil, lui ai posé des questions. Je voulais savoir ce qu'il ressentait quand il guérissait les autres, ce qui se passait dans son corps, dans sa tête. Il m'a donné des réponses évasives, métaphoriques. Je n'ai pas saisi. J'aimerais voir mon bocal, s'il vous plaît. C'est possible ?
Bien sûr.
Il est allé le chercher dans la chambre. À travers la porte ouverte, j'ai eu l'impression que leur nombre avait augmenté depuis ma dernière visite. La puanteur, pourtant plus forte que la dernière fois, ne me dérangeait plus. Il l'a posé sur la table basse. Je l'ai reconnu malgré l'absence de signes distinctifs. Une bande de cire rouge couvrait le ruban adhésif et un symbole bizarre, mi-lettre, mi-dessin, ornait le bouchon. Puis-je le garder ? En souvenir, vous voyez ?
Impossible. Il est sous ma responsabilité. Je vais vous montrer quelque chose.
Il l'a posé sur le buffet, sous une lampe qu'il a allumée. Il a tiré une grosse loupe carrée d'un tiroir, le genre qu'utilisent les collectionneurs de timbres.
Venez voir. Approchez-vous.
Il m'a tendu la loupe.
Regardez. Regardez attentivement.
À travers le verre grossissant, révélé par la lumière crue de l'ampoule, j'ai observé, effaré, les centaines de minuscules bestioles, semblables à des poux ou à des petites tiques, grouillées à la surface de la merde. J'ai eu la chair de poule. Bordel ! De quoi s'agit-il ? Il a rangé la loupe et éteint la lampe.
De votre maladie. Votre maladie est vivante. Vous comprenez ? J'en suis le gardien. Vous pouvez avoir confiance en moi.
C'est la dernière fois que je l'ai vu. Plus de 10 ans ont passé. Je n'ai jamais subi de rechute. Ce matin, je me suis rendu aux obsèques, au cimetière nord, dans le carré des indigents. Seule une poignée de clodos assistait aux funérailles, personne d'autre. Un enterrement à la sauvette, sans cérémonie ni discours, effectué par des fonctionnaires pressés, avec pour seul témoin une bande de poivrons rendant un dernier hommage à leurs copains de biture. J'ai songé que le guérisseur était incapable de se guérir lui-même. J'ai songé que s'il n'avait pas d'enfant, son pouvoir venait de s'éteindre en même temps que sa lignée. J'ai songé à toutes les personnes que Vitali avait soignées au fil des années. Des centaines, à en juger par les bocaux, qui envahissait le moindre recoin de son appartement. N'avait-elle pas lu l'annonce de sa mort ? Ou était-elle simplement indifférente, dépourvue de gratitude ? Aujourd'hui, j'ai vu contre la fenêtre de ma chambre et au plafond de minuscules moucherons. Je les ai tués jusqu'au dernier.
Il se passe des choses terribles à l'heure actuelle. À une époque, je me suis demandé si je pouvais faire quelque chose pour changer le monde. J'ai compris par la suite que ces pensées n'avaient pas lieu d'être. Essayer de changer le monde ne mène qu'à la souffrance. La seule chose que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et c'est pourquoi je ne peux pas t'aider. Tu sens la pesanteur sans toutefois savoir comment elle fonctionne. Il y a des forces qui ont des répercussions sur chaque vie, et qui néanmoins dépassent notre contrôle et notre compréhension.
Page 223, Rastabog, Morgane Kosari. Mogo attendait les vieilles femmes sur le sable, à marée basse. Les touristes, les Européennes. Il n'était pas le seul. La plage grouillait de Rastaboy au torse luisant. Il abordait les vieilles femmes dans leur langue. Il connaissait des rudiments d'anglais, de français, d'allemand, de hollandais. Et leur proposait une gamme de bracelets que sa sœur et sa femme fabriquaient. Mais ce n'était qu'une technique d'approche. Les bracelets ne permettaient pas de faire vivre sa famille. Dans le court laps de temps que lui accordait la touriste, il fallait qu'il se montre charmant. Plus charmant que les autres Rastaboy. Son physique lui donnait un avantage. Il était beau. On le lui avait répété toute son enfance. Et plus encore, depuis qu'il côtoyait les vieilles femmes. Peau parfaite, brillant sous le soleil, abdominaux bombés, dents blanches, parfaitement alignées, regard en amande d'un brun profond. Et surtout, un petit cul bien rond. Beaucoup de garçons ici possédaient ces qualités, mais lui avait trois atouts en plus. Des dreadlocks qui lui descendaient jusqu'au bas du dos. Il les parfumait avec des huiles aux senteurs exotiques chimiques. Des lèvres moins épaisses que celles de la plupart des gens ici, et un nez plutôt fin. Les blanches lui confiaient souvent qu'elles n'aimaient pas les narines épatées et les bouches trop pleines. C'est pourquoi elle l'avait choisi, lui et son visage d'enfant. Il devait alors assurer, pas le choix, toucher la vieille chair claire et flasque. C'était ça, ou bien offrir sa fille aînée d'à peine 7 ans à des pervers. Certains pères du village n'hésitaient pas à le faire. Pas lui. Tel le Christ, il se donnait à la place en sacrifice. Allongé sur le lit, les bras en croix, une momie édentée le chevauchant, son membre perçant sa fente défraîchie, comme les clous des mains du sauveur. Dans le feu de l'action, il fermait souvent les yeux. Il imaginait les rondeurs à la place des creux, un plat là où ça gondolait. Quand il gardait les yeux ouverts, il voyait sa main, jeune et noire, sur la peau blanche, tombante et dégonflée. Ça avait quelque chose d'excitant. Il bandait. Mais ses vergetures et ses cons fanés, bordés de poils gris, lui donnaient la nausée. Il buvait un bon litre de mauvais rhum avant chaque performance. Beaucoup de garçons, une fois qu'ils avaient mis le grappin sur une vieille européenne, faisaient en sorte qu'elle l'emmène chez elle et qu'elle l'épouse, afin d'obtenir des papiers et de vivre dans un pays riche. C'était le rêve de la plupart des jeunes gens d'ici, se barrer. Mais pas Mogo, parce qu'il était incapable de jouer la comédie trop longtemps. Parce qu'au bout de quelques semaines, il perdait patience. Sa partenaire finissait par ressentir son aversion. Elle comprenait qu'il ne l'aimait pas vraiment, même s'il continuait à lui seriner le contraire. Et puis, sa vie était ici. Il préférait extorquer de l'argent aux vieilles femmes contre sa peine, plutôt qu'un mariage et un billet d'avion. L'astuce consistait à ne pas demander pour lui, mais pour un ami dans le besoin, qu'elle ne comprenne pas qu'il était lentement en train de la traire, comme la grosse vache qu'elle était. De lui faire parcourir les bas-fonds du village, rencontrer des parents nécessitant des soins urgents, des enfants, des livres pour l'école, qu'elle soit touchée par la misère africaine, qu'elle participe, qu'elle aide, qu'elle se sente fière et généreuse d'aider, grandie, canonisée. Il vidait son porte-monnaie peu à peu, tout en finesse. Lui faisait l'amour quand elle donnait, la gueule quand elle ne donnait pas. Au début, elle avait le pouvoir, l'oseille. Elle était comme sur un marché. C'est à peine si elle n'examinait pas sa dentition. Elle pouvait le choisir ou l'envoyer paître. Elle ne voyait en lui qu'un sauvage inculte et exotique. Il devait se plier à ses désirs, se soumettre, se tordre, donner de sa personne, faire tomber ses préjugés de vieille salope sur la Gambie. Mais à la fin, s'il avait bien fait son boulot, elle était amoureuse de lui, amoureuse de sa jeunesse, capable de tout pour qu'il l'aime vraiment. Alors c'était lui qui détenait le pouvoir. Comme elles étaient pitoyables, ces grosses blanches fripées, quand elles s'apercevaient qu'il s'était joué d'elles. Il exultait, adorait l'emprise qu'il avait sur elles. Il adorait les voir le supplier à genoux. Il aimait leurs larmes. Une vieille européenne sortit d'entre les palmiers, longea les touristes cramoisis affalés sur des chaises longues et descendit la dune, harcelée par une nuée de vendeurs de camelotes. Il ne se précipita pas sur elle, ou surtout ne pas l'effrayer. Il préférait jouer les garçons calmes et compréhensifs, en opposition à ses camarades trop volubiles et insistants. Il la vit hâter le pas pour se débarrasser des garçons qui la suivaient avec leurs pacotilles. Il attendit qu'elle arrive à son niveau et marcha avec elle en silence. Quand un autre Rasta Boy débarqua, il demanda à la vieille en anglais rudimentaire « Il te fait chier, Snow White? Tu veux que je lui dise « pars » ?» Elle hocha la tête, déstabilisée. Il discuta un peu avec le gars qui accepta de lui laisser le champ libre. Il revint vers la femme et la dévisagea avec insistance. Pour une vieille, elle était encore très bien, mince et distinguée. Elle avait relevé sur son front ses lunettes de soleil, dévoilant des yeux d'un bleu intense, presque transparent. Sa peau encore pâle, constellée de taches de rousseur, sans coup de soleil ou bronzage, indiquait qu'elle était arrivée en Gambie la veille. Son ventre faisait des plis au-dessus du maillot de bain. Elle avait au moins 80 ans. Dans toute sa carrière de Rasta Boy, Mogo ne s'était jamais tapé une aussi âgée. Il repoussa derrière ses épaules ses dreadlocks, qui ondulèrent dans son dos. Il se redressa, contracta ses abdominaux. Il était si beau, Mogo, torse nu. « Ça t'embête si je marche avec toi, Snow White ?» Elle lui adressa un sourire timide. Elle ne semblait pas méfiante. Il avait déjà gagné. « Tu viens d'où ?»«
France. Je suis en vacances pour un mois. J'avais envie de me dépayser, de profiter de la Gambie. Je suis à l'hôtel, là-bas. »
Elle pointa du doigt le bâtiment derrière les palmiers. Mogo lui montra des bracelets et lui en vendit un en perles bleues, qui mettait en valeur son regard. Puis il lui proposa de faire le guide, de lui montrer son village, le vrai village, pas celui qu'on expose aux touristes. Elle accepta. Pendant la balade, il lui prit la main. Elle se laissa faire, docile. Elle lui demanda s'il avait une copine. Il lui assura que non.
« J'ai eu plusieurs maris, » dit la femme, « mais je les ai tous enterrés. »
Elle semblait triste, et il en profita pour l'embrasser. Ses lèvres étaient agréables. Il l'entraîna dans la chambre qu'il louait exprès pour les vieilles blanches, partageant le loyer avec trois autres Rasta Boys. Sa femme refusait qu'il les ramène à la maison. Ça se comprenait. La chambre était minable, comparée aux hôtels de luxe dans lesquels les touristes séjournaient, mais elle était à peu près propre et contenait l'essentiel pour travailler correctement. Lit, moustiquaire, ventilateur, huile de massage, rhum.
« Tu habites ici ?»«
Mikasa estukasa », plaisanta-t-il en sortant l'une des 15 phrases qu'il maîtrisait en espagnol. Il la fit asseoir sur le matelas, leur servit deux verres, tandis qu'elle rangeait ses lunettes de soleil dans leur étui et chaussait ses lunettes de vue pour mieux les examiner, lui et la pièce. Il avala le rhum cul sec et enleva son pantalon. Il ne portait rien en dessous. Elle le mangea du regard, l'effleura du bout de ses ongles incroyablement longs.
« Tu es si jeune, si beau, » souffla-t-elle. « Et moi, si vieille. »
« Tu es pas vieille. » Il l'aida à se déshabiller.
Si, je le suis.
Il lui ôta son maillot de bain.
Je ne suis pas la première que tu ramènes ici, pas vrai?
Si, tu es la seule blanche. Le mensonge était grossier, mais elle le gobait toujours. Besoin de se sentir spécial, sans doute.
Je veux sentir ta jeunesse en moi, ta vigueur,
murmura-t-elle.
Je veux que tu me ressuscites.
Il caressa les seins en gants de toilette.
Je veux me sentir jeune à nouveau, grâce à toi.
Il y avait une passion dans son regard qui chamboula Mogo. La chaleur le faisait transpirer. Des gouttes de sueur perlaient sur sa lèvre supérieure, dégoulinèrent le long du menton. Elle posa son verre de rhum, toujours plein, et dénoua sa longue chevelure grise qui lui retomba en rideau sur le visage. Enfin, elle retira ses lunettes de vue qu'elle déposa délicatement sur la table de chevet. Mogo ne jouait plus la comédie. Il voulait coucher avec cette femme. Son membre se redressa sans qu'il ait besoin de penser à autre chose. Malgré son âge, la vieille semblait avoir une libido dévorante. Ses yeux lui promettaient un plaisir inouï.
« Tu as un préservatif ?»
sentit-elle. « Non, pas de sida ici, pas de problème. » Il se coucha sur elle, prenant soin de ne pas trop s'appuyer pour ne pas briser ses os fragiles, et pénétra sa fente aux lèvres pendantes, sans préliminaire. Pas besoin, elle était déjà ouverte. Tellement ouverte, il s'enfonça toujours plus, comme si la cavité n'avait pas de fond et que sa queue n'en finissait plus de grandir et de grossir. Il ne ferma pas les yeux cette fois. Il se laissa aspirer par les pupilles de la femme, cerclées de bleu. Il se laissa aspirer par la béance qu'il voyait à l'intérieur, par celle-là, et plus encore, par celle entre ses cuisses.
« Mogo !» soupira-t-elle, « mon beau noir !»
Son vagin était étrangement musclé. Les parois s'étaient à présent renfermées sur lui et la grippaient comme une main autour de sa queue, ou comme des mâchoires autour d'une proie. Il enfouait le nez dans son cou. Elle sentait bon, un parfum de lessive, de sueur légèrement âcre. Il embrassa sa bouche, goûta sa salive. Délicieuse sa salive. Dans le miroir fêlé en face du lit, il voyait leurs deux corps se fondre l'un dans l'autre. Lui si noir, elle si blanche, jusqu'à ce que le reflet devienne gris. Un frisson lui parcourut l'échine. Il voulut faire des mouvements de va-et-vient, mais impossible. La femme le serrait trop fort. Sa queue était comprimée, avalée, digérée. Sa queue devenue mulot. Le vagin la déglutissant comme une couleuvre. La femme contractait ses muscles par intermittence. Et ce simple mouvement donna à Mogo l'envie de jouir. Il se retint. La femme se pâmait, secouée par un puissant orgasme. Elle ne semblait plus aussi vieille. Peut-être avait-il mal jugé sur la plage. Elle n'avait sans doute pas plus de 70 ans. Le rouge lui montait aux joues. Son corps se tendait, se raffermissait sous lui. Puis, ce fut évident. Elle avait 60 ans. Mogo devait avoir bu trop de rhum. Sa tête tournait. Il se sentait sur le point de s'évanouir. Le plaisir était trop violent. Elle l'étreignit davantage. Il n'aurait pas pu se retirer, même s'il l'avait voulu. Elle avait 40 ans. La pièce autour d'eux rapetissait. La vision de Mogo se troubla. Ses couilles étaient incandescentes. Des mèches écarlates apparaissaient dans la chevelure grise. Les rides s'estompaient. La peau se lissait. 30 ans. 20. Mogo était couvert de transpiration. La fièvre lui brûlait les joues. Était-elle vraiment devenue cette créature magnifique? Cette sirène envoûtante à la tignasse d'un roux éclatant? Il jouit à l'intérieur d'elle. Il y déversa toute la vie dont il était capable, tout ce que ses couilles et son puissant corps contenaient. Elle desserra son étreinte rompue et il put se retirer. Il roula péniblement sur le côté. Il se sentait si vide. Un poids écrasait sa poitrine. Il avait du mal à respirer. Était-ce un rêve? Tout son corps lui faisait mal, des muscles jusqu'à la moelle de ses os. La sirène rousse déposa une liasse de billets sur le matelas. Plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu.
Cette somme mettra ta famille à l'abri pour les 50 prochaines années.
Sa voix semblait venir d'une autre dimension. Mogo devait se réveiller. Maintenant, mon beau noir, lui susurra-t-elle au creux de l'oreille. Tu apprendras que la jeunesse n'a pas de prix. Puis l'éclat de chevelure rousse fut avalé par la porte. Il était seul, à nouveau. Le reflet de Mogo dans le miroir. Pourquoi son reflet était-il flou? Pourquoi tout était devenu flou?
Un voile s'était déposé sur ses yeux. Il tendit la main vers la table de chevet, attrapa les lunettes qu'elle lui avait laissées. Ce n'était pas un oubli, elle n'en avait plus besoin. Il les posa sur son nez et sa vue s'ajusta. Il y voyait à présent assez pour remarquer que sa peau pendait sur son squelette, qu'il ne lui restait quasiment plus de chair. Il se leva, faisant craquer ses articulations. Ses cheveux étaient blancs, la peau de son visage ressemblait à celle d'un cadavre de lézard au soleil. Sec et dévasté comme le sol d'Afrique, il retomba sur le lit, les jambes trop faibles pour le porter. Il enfouit son visage dans les serres qui étaient devenues ses mains et pleura.
Que ses relations avec les touristes soient le plus souvent vénales,
cela ne dérange pas Evelyne, bien au contraire.
Qui est-ce qui paye en général?
C'est moi qui paye.
C'est moi qui paye. Il n'a pas beaucoup d'argent.
Alors, il ne peut pas payer?
Non, c'est moi qui paye. Ce qu'on mange, ce qu'on boit.
L'hôtel.
Puis je suis contente avec lui, il est super.
Il est gentil avec moi. Je trouve qu'il est beau.
Evelyne entretient Raphaël. Pourtant, elle n'a pas le sentiment de se payer un gigolo. Le pays est pauvre et l'argent est juste un moyen pour elle de vivre ses désirs.
Ils sont très attentionnés,
très protecteurs, maintenant trop macho, hein, c'est le côté qu'il faut supporter. Hyper macho.
Ça fait quand même la troisième fois que je viens.
J'ai quand même été 3 mois en Afrique aussi avant.
Donc je connais bien le peuple
de couleur, on va dire. J'aime beaucoup l'exotisme,
la chaleur qu'il y a ici, humaine surtout.
Ça fait
peu de temps que j'ai pas fait l'amour avec un blanc. Un européen en tout cas.
Ou même un américain.
7 ans que j'ai pas fait l'amour avec des gens de ma couleur.
Et je sais plus comment c'est. Je
sais plus comment c'est. J'ai pris l'habitude
d'un certain contact physique.
C'est la fin de cette émission avec Les Nouveaux Déviants, recueil de 17 nouvelles publiées aux éditions Au Diable Vauvert. Je vous ai fait la lecture de 2 de ces nouvelles. La première, Deux miracles à Merdjek-Gorod, de Christophe Sieber. Puis Rasta Boy, de Morgane Cossario. Il vous reste donc 15 récits à découvrir. C'est particulièrement troublant à lire. Les auteurs ou les autrices s'en sont donnés à cœur joie et ont joué avec les méandres du malaise et de la déviance. Ici, on parle de body horror. Là, une vie entière d'un coprophage déjanté, à grand renfort d'un subtil vocabulaire, pas piqué des hannetons. Ou bien encore, une exploration des bas-fonds. Et j'en passe. C'est très novateur et ça dézingue pas mal les habitudes de lecture trop souvent confortables et aseptisées. On grimace parfois le livre entre les mains, tant c'est déroutant et délicieusement scabreux. Bouquin Bouquine, à retrouver le dernier mardi de chaque mois 22h sur Graffiti, puis partout sur internet en podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse suivante bouquin@urban-radio.com. On se retrouve très vite. D'ici là, bon courage à toutes et tous dans la déviance du monde. Très bonne lecture à chacun et chacune. Ciao. Bye.